Dans le vieux Czar de Wargla, le marché bat son plein ce matin. De l'immense palmeraie qui enserre la ville arrivent des dattes, des fruits et des légumes. Mais depuis Alger, à 850 km au nord, mais aussi depuis la Tunisie voisine, ce sont tous les biens manufacturés qui se déversent dans cette grande ville. Car aujourd'hui, Wargla est devenu, grâce au pétrole, un important centre industriel, administratif et universitaire. À quelques dizaines de mètres de la place du marché se trouve la maison des Pères Blancs. Deux prêtres y dirigent une bibliothèque et un petit centre culturel. Un lieu qu'apprécient particulièrement des étudiants africains en formation à l'université de Wargla.
Bonsoir mon père, ça va?
Ça va bien?
Oui.
Bonsoir mon père, ça va?
Ça va très bien.
Ça va. Alors, comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Si vous devenez.
Comme d'habitude, ça
vous donne.
Oui, oui, comme d'habitude. Rien de spécial.
Rien de spécial.
Mais quand même, on a fait le cours toute la matinée et puis. Maintenant on se dit, il faut quand même qu'on vienne passer ici à la bibliothèque et puis voir aussi si vous allez bien.
Alors vous voulez consulter un peu la bibliothèque?
Oui. Ouais.
D'accord.
Et à part ce repère, Denis, il va bien.
Père Denis, alors, je n'ai pas de nouvelles dernièrement, mais je pense qu'il va bien.
Je m'appelle Clément Bigirimana, je viens du Burundi, donc je suis burundais de naissance et de nationalité. Je suis arrivé en Algérie le 28 septembre 2007 comme étudiant boursier du gouvernement burundais. Et je fais le français, donc pour le moment je suis en première année master. Donc nous venons ici pour les messes dominicales. Et pour la bibliothèque aussi. La maison des Pères Blancs de Wargla est comme notre deuxième famille. Nous sommes très proches, ce sont les parents qui nous conseillent.
Et ça, c'est très différent de ce que vous aviez l'habitude de vivre quand vous étiez au Burundi?
Évidemment, parce qu'au pays, au Burundi surtout, comme les chrétiens sont majoritaires, il est très difficile d'accéder au presbytère, d'être en contact avec les prêtres, comme nous le faisons ici, et en particulier avec l'évêque.
Comment se comportent les étudiants algériens avec vous quand ils apprennent que vous êtes chrétien?
Ils sont un peu étonnés parce qu'ils ne sont pas habitués déjà à vivre avec les chrétiens. Pourquoi nous sommes chrétiens? Et puis ils cherchent à nous poser des questions et à nous faire de l'historique de l'islam pour qu'ils essayent de nous ramener entre guillemets, à la bonne ligne, je dirais.
C'est-à-dire qu'ils veulent vous convertir.
Oui, c'est évidemment leur souhait quand même.
Moi, je m'appelle Elvis Nizgam. Je suis burundais. Je suis étudiant à Wargla en troisième année anglais. Je sors seulement de mon campus universitaire, donc ma cité là où on vit. C'est seulement pour venir à l'église, là où vivent les Pères Blancs, ou bien pour partir chez les sœurs. À part ça, donc je n'ai jamais visité d'abord une famille arabe et musulmane. Donc je sors seulement pour partir au marché, ou bien pour venir ici à l'église.
Est-ce que vous avez des contacts avec les Africains, mais qui ne sont pas étudiants à l'université, ceux qu'on appelle les migrants?
Oui, en tout cas, mais je ne sais pas s'ils sont des clandestins ou bien de quoi. Mais quand même, ici, il y a des Africains subsahariens, surtout la plupart, ils viennent du Cameroun. Et ils viennent ici des fois à l'église, donc pendant les messes dominicales. Ils vivent ici à Wargla, ils travaillent ici, ils viennent ici. Mais c'est donc Africains migrants que je suis en contact avec, que je connais, sinon pas d'autres.
Mais ils viennent ici dans la communauté?
Oui, ils viennent assez souvent de Somédi, donc ils font partie de la vie de notre paroisse.
Jean Guignard est l'un des deux Pères Blancs de cette communauté de Wargla. Il vit en Algérie depuis 1965 et nous dit qui sont ces migrants d'origine camerounaise qui viennent parfois rejoindre la communauté.
Ce sont des gens qui cherchent une vie meilleure. Là-bas, ils n'ont pas ce travail. Donc, plusieurs tournent un peu dans le Maghreb. Ils n'osent pas trop dire quel est leur but ultime. Mais pour l'instant, ils sont là, ils sont bien intégrés dans la société. Ils sont peut-être utilisés par la société ici, mais n'empêche qu'ils se font de l'argent et ils repartiront peut-être un jour, mais vers quelle destination, le nord ou le sud? La question est pendante.
Qu'est-ce que ces migrants attendent de vous quand ils viennent sonner à la porte ici?
Ce qu'ils attendent, ces migrants, c'est un lieu de même où ils peuvent vivre leur foi. Je suis étonné, étant chrétien, ou ayant été mis en contact avec le monde chrétien chez eux, ils ont besoin de retrouver un lieu où ils puissent exprimer leur foi, la vivre. Tous ne sont pas catholiques, il y a des évangéliques ou des protestants qui viennent là, mais c'est de pouvoir vivre un temps de leur foi avec nous.
Est-ce qu'ils attendent aussi une aide matérielle ou des soins quand ils sont malades?
Ils ne la demandent pas, parce qu'en principe, ils travaillent, donc ils ont de quoi. Et même, je pourrais témoigner que tout récemment pour Noël, l'un d'entre eux nous a apporté un approvisionnement qui nous a tous surpris. Parce qu'il m'a dit, pour nous, là-bas, là où je suis au Cameroun, c'est normal que nous apportions à la communauté des prêtres de quoi vivre.
Si Wargrave est une immense oasis, c'est aussi devenu un centre industriel important, et notamment pétrolier, grâce aux nombreux forages de la région d'Assimessaoud. Le père Félix Telechea se rend régulièrement à Assimessaoud sur les bases-vies où vivent et travaillent les salariés des compagnies pétrolières. Il a l'autorisation de pénétrer dans cette zone bien gardée et d'y célébrer l'Eucharistie.
Pratiquement, c'est tous les week-ends algériens. Le week-end algérien, c'est vendredi, samedi. Et donc, on célèbre l'Eucharistie le vendredi après-midi à 5 heures.
Mais qui sont vos paroissiens?
En très grande majorité, c'est des Italiens. Mais il y a des Français, il y a des Espagnols, il y a des Sud-Américains, il y a des Anglais, et il y a un peu partout.
Et je dirais, quelle est un peu cette mission particulière, cette pastorale particulière que vous avez pour ces hommes qui sont expatriés, qui travaillent là-bas?
Bon, c'est un peu spécial parce que en fait, ce sont des expatriés qui ont une vie extrêmement dur quand ils sont ici. Ils ont un horaire de travail de 7h à 7h du soir et ils n'ont pas de jour de congé, ils n'ont aucun jour libre. Alors, en contrepartie, ils travaillent soit 3 semaines et ils repartent 3 semaines, soit un mois, ils partent un mois. Alors, il y en a qui font 3 mois et qui partent 3 mois. C'est une situation qui est très difficile pour des pères de famille, et il y a aussi des femmes, donc des mères de famille aussi, qui viennent travailler et qui sont éloignées de leur famille, donc c'est des situations difficiles. Et dans les grandes fêtes, à Noël ou ça, on sent que ceux qui restent sont quand même vivent un peu difficilement, avec une nostalgie très forte pour l'éloignement de leur pays, de leur famille.
Sœur Anne-Marie, merci de m'accueillir dans la maison des sœurs de Saint-François, des petites sœurs de Saint-François à Wargla. Alors nous sommes dans une maison, si je regarde bien autour de moi, visiblement qui est ancienne.
Oui, qui date de 1952, qui en fait est le presbytère des Pères Blancs. Et à côté, là, la maison, le jardin, et à côté, c'est l'église, c'était l'église, et actuellement, c'est le musée des Moudjahidines.
C'est-à-dire les anciens combattants.
Les anciens combattants de la guerre d'Algérie, voilà.
Est-ce que le fait d'être une femme, d'être une femme religieuse, chrétienne, vous a ouvert des portes particulières pour pouvoir entrer en contact avec ce pays?
Oui, je pense. Parce qu'aujourd'hui, être sœur dans Wargla, par exemple, même si j'ai aucun signe de sœur, tout le monde m'appelle ma sœur. Et que je sois sur la bicyclette, que je sois à pied, c'est toujours bonjour ma sœur. Ça, au niveau d'une reconnaissance. Et même dans les villages, si on ne savait pas que j'étais une sœur, aujourd'hui on sait que je suis une sœur, que je suis chrétienne.
Et du coup, vous pouvez rentrer partout, dans toutes les maisons?
Je n'ai jamais senti cette difficulté, à part, je dirais, une seule famille où c'était le frère qui m'a empêchée. Mais c'est vraiment minoritaire, hein, c'est pas des 30 années que j'ai vécu ici.
Et si vous étiez un homme, si vous étiez un prêtre, ce serait la même chose?
Non, pas du tout. Nous, on a une grande chance en tant que femme d'être là. Et ça, je crois que les prêtres pourraient un tout petit peu nous jalouser quelque part parce qu'ils n'ont pas cette chance-là. Et nous, on peut rentrer dans les familles, même les hommes, ils viennent nous saluer, on peut les saluer parce qu'en étrangère, on peut, ils viennent. On rencontre la famille en part entière et les hommes ne peuvent pas. Ça, c'est vrai.
Père Jean Guénière, à la fin de la prière, il y a une photo qui est tombée de votre bréviaire. C'est votre frère?
Oui, c'est mon frère. Donc mon frère qui a 51 ans a été tué ici en Algérie. Il était gendarme et donc de façon bête, très bête comme tout, il a été tué.
Pendant la guerre d'Algérie?
Pendant la guerre d'Algérie, en 61.
Et votre vocation, quelque part, s'enracine aussi dans cette mort?
Comme toute vocation, pour moi, ça a été un cheminement. Comme un certain nombre des Français, des jeunes Français, bon, je suis venu ici en Algérie, je l'avais vu un mois et demi avant sa mort, et quand même, mon séjour ici m'avait pas fortement marqué. Déjà, j'étais sûr de rentrer chez les Pères Blancs, j'avais pris cette décision-là, et mon séjour en Algérie, même dans des circonstances parfois dramatiques et difficiles, m'avait enraciné, m'avait attiré vers ce peuple. Et si on veut, j'ai reçu ce signe, la mort de mon frère, c'est peut-être triste à dire, mais enfin, quand même, comme une confirmation.
Et qu'est-ce que ça a représenté, et qu'est-ce que ça représente encore pour vous d'être présent ici en Algérie?
Cela représente pour moi, au-delà de toutes les difficultés, ce désir de vouloir jeter des ponts malgré tout. Certains vont s'exprimer à les détruire, il y en a d'autres qui vont faire tout ce qu'ils pourront pour les reconstruire.
Au nord-est de Ouargla, c'est à Tougourt que nous faisons halte maintenant, chez les Petites Sœurs de Jésus, fondée par Sœur Madeleine en 1939. Dans une modeste maison en terre battue, une dizaine de sœurs y vivent une vie simple, inspirée de l'Évangile et de la spiritualité de Charles de Foucault. Sœur Myriam, une Française, aujourd'hui de nationalité algérienne, y vit depuis 1951, et c'est elle qui nous y accueille.
Ces arbres-là ont été plantés par Sœur Madeleine, et ils avaient séché, mais quand on les a arrosés, ils les ont repris, et depuis, on les a émondés bien des fois. Voilà, si vous voulez nous suivre.
Ce sont des arbres qui sont grands pour oui, des arbres du désert.
C'est un arbre qui résiste à la sécheresse, très fruste, il ne craint pas, il repousse facilement.
On enlève les chaussures pour entrer dans cette petite chapelle.
Alors, voilà la chapelle qui est depuis le début ici. Et seulement, quand nous sommes arrivés et quand Sœur Madeleine était ici, il n'y avait ni eau ni électricité. Il n'y avait pas d'électricité.
Alors, Sœur Madeleine, qui est votre fondatrice, oui, elle était inspirée par la spiritualité de Charles de Foucault.
De Charles de Foucault. C'est à la lecture du livre de René Bazin qu'elle a découvert, et le père de Foucault, et la vie nomade, mais elle aimait déjà les peuples arabes, avant, de son enfance.
Et alors, cette petite chapelle qui est carrée, les murs sont blancs avec des petites niches creusées dans les murs, l'autel est posé sur des troncs
de palmiers. Et cela, il date depuis la fondation, depuis la première chapelle.
Vous, sœur Myriam, ça fait depuis 1951.
Oui, 51, la fin de 51. Ouais.
C'est important de durer dans la relation avec les gens.
Voilà. Je pense, moi, l'expérience que j'ai, c'est vrai, c'est très important. Les parents, les grands-parents, on voit les enfants, maintenant leurs petits-enfants. On a une suite, il y a un lien profond avec... Pour entrer bien dans une culture, dans une forme de pensée, connaître bien une religion, il faut du temps, et du temps aussi pour que les personnes voient, parce que c'est basé sur la confiance.
Voient qui vous êtes et vous connaissent dans la durée aussi.
Voilà, dans la durée, dans les moments qu'on partage, les services qu'ils nous demandent, ou bien simplement les échanges. Parce qu'on a des échanges de foi, non foi différentes, mais qui rejoignent Dieu et où on se retrouve.
Les services que vous rendez et les services qu'ils vous rendent aussi.
Aussi.
Je repense que
oui.
Frère Charles, ça a été très important,
oui,
quand il a été,
oui,
aidé par les autres,
oui,
quand il était
mais
malade.
Mais ça nous journellement, on a besoin. Surtout, là maintenant, nous avons deux jeunes, mais avant nous étions quatre assez limités.
Vous avez été sage-femme, vous, je crois.
Oui, oui, oui.
Et ça a été un moyen d'être très proche des populations locales.
Oh oui, c'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée, j'ai aidé une petite sœur sage-femme. Et par la suite, le directeur de l'hôpital nous a demandé d'aller travailler à l'hôpital. Alors j'ai fait la formation par la suite, mais je ne connaissais rien. Moi, j'étais venue pour la vie nomade. Et oui. J'ai été sédentarisée, et on ne peut plus.
Ouais. Et ça vous a fait rencontrer beaucoup de monde, j'imagine, le fait d'être sage-femme.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça nous a fait vivre, porter beaucoup, entrer beaucoup dans la vie familiale, la solidarité avec les gens. C'est vrai.
C'est notre petite palmeraie qui est tout près de chez nous. Et les premiers palmiers les plus hauts, là, ils ont été plantés par petite sœur Madeleine. Elle est arrivée en 39 et dès 40, elle a planté, fait planter les premiers palmiers, là, ce que vous voyez là. Et puis, petit à petit, on en a rajouté d'autres.
Et ça, c'est une source de revenus pour vous?
Oui,
vous des dates?
Si on vend la récolte, on garde quelques palmiers pour nous, pour notre consommation, puis pour partager avec quelques voisins ou amis, et le reste, on le vend. Et puis, traditionnellement ici, parce que c'est le travail de beaucoup de nos voisins, sous les palmiers, on cultive des légumes, et nous, on y cultive aussi des fleurs. Parce que les gens aiment beaucoup les fleurs, et... on fait plaisir à quelqu'un en lui donnant un bouquet de fleurs. Et puis, comme en certaines saisons, printemps ou à l'automne, il y en a davantage, on en fait des petits bouquets qu'on va vendre. Et il y en a qui viennent
sur
le marché, oui, ici à Tougourt, Sidi Bouchnan. Ou bien, on a un ami qui est commerçant qui vend des légumes et il accepte qu'on pose les bouquets de fleurs chez lui, il les vend pour nous. Moi, j'ai que des petits bouquets. Mais certains viennent, mon frère va se marier, ou bien fiancé, ou un anniversaire. Demain, on vous demande un beau bouquet de fleurs. Et pour certains, ça fait des liens très fraternels, comme ça, d'amis. C'est vraiment sympathique. Et les enfants, s'ils voient les fleurs, donne-moi un bouquet, vous allez voir. C'est vraiment... Et puis, comme je vous disais, c'est le travail de beaucoup de voisins. D'ailleurs, quand Sœur Madeleine est arrivée ici à Tougourt, Sidi Bouchnan, c'était des cultivateurs. Et cette région est considérée pour une bonne qualité de dattes, les deux Glettenour. Alors, ça s'étend sur des dizaines de kilomètres. Et donc, c'est fait participer au travail que ont les gens.
De la vie des gens, ici.
Voilà. Et moi-même, je suis rurale d'origine. Bien sûr, en Belgique, la culture, ce n'est pas les dates. Mais j'ai quand même ça un peu dans le sang, quoi. J'aime ça aussi, et voilà. Et bon, c'est pour moi l'occasion d'entrer aussi en contact avec ceux qui font le même travail. On s'échange des conseils, ou bien ce qui ne va pas, ce qui a été difficile, ou bien des graines, ou bien des plants. Il y en a qui viennent chercher des plants de fleurs pour mettre dans leur jardin. Et voilà, comme ça, ça fait des rapports d'amitié très simples et on est sur le même niveau que les gens.
Et vous aimez faire ça?
Et j'aime, oui, beaucoup, beaucoup, oui.
Pour Charles de Foucauld, mais aussi pour Petite Sœur Madeleine, la fraternité universelle est quelque chose de très important. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie, ces mots fraternité universelle?
Ah, ça veut dire que on lie amitié avec tout croyant, quels que soient les croyants bouddhistes, musulmans, autres chrétiens orthodoxes. On a même eu des petites sœurs protestantes, parce que pour Sœur Madeleine et pour Frère Charles, c'était très important qu'on soit vraiment en amitié avec tout homme, et surtout les plus méprisés, parce que c'est sûr que les gens qui étaient complètement illettrés, qui vivaient tellement pauvrement que peut-être on ne découvrait pas toujours l'humain là-dedans, et pour elle c'était très important.
Voir l'humain derrière l'apparence, derrière la pauvreté et l'ignorance. De ce voyage, j'ai mesuré à la fois la beauté, la richesse de cette église catholique ici présente au Sahara, mais en même temps sa fragilité par l'âge des religieux, des religieuses, des prêtres qui sont là, difficulté d'obtenir des visas pour ceux qui voudraient venir vous rejoindre. Comment vivez-vous, vous, cette fragilité de ce diocèse du Sahara?
Je crois qu'elle est à recevoir comme un don de Dieu. Nous rêvons souvent d'une église évangélique dépouillée, loin de toute manifestation extérieure qui la fasse percevoir dans un certain triomphalisme. Je me dis au fond, l'église dont nous pourrions rêver, elle nous est donnée. C'est une église fragile, c'est une église qui doit vivre au jour le jour, qui vit dans une certaine insécurité, non pas du côté des Algériens, mais par rapport à son avenir. Et je crois que nous avons à recevoir cela comme un don de Dieu qui nous est fait, mais qui n'est pas facile du tout à vivre. Parce que je ne sais pas, par exemple, si dans telle ou telle communauté où nous sommes passés, dans un an ou deux ans, cette communauté sera renouvelée. Et ça m'oblige à une confiance absolue dans l'avenir tel que Dieu nous le propose. Et je dirais souvent, je suis vraiment mis au pied du mur de l'espérance.
C'est sur ces paroles d'espérance que s'achève notre périple dans le Sahara algérien. Un très grand merci vraiment à Mgr Claude Rau pour son accueil et sa confiance. Merci également à tous ceux et toutes celles, et ils sont nombreux, qui m'ont accueilli au cours de ce voyage et qui, par leur exemple, m'ont enseigné que la spiritualité était indissociable de la fraternité. Merci enfin à Philippe Faure pour la réalisation technique de ces reportages.